Donc, nous continuons la série sur la famille. Et aujourd'hui, c'est justement le sujet du mariage. Et on a déjà eu une première installation ce matin. Donc, je ressens un petit peu que on fait de trop. Mais je pense que ce n'est pas néfaste de revoir ça à certains points et je vais élargir certaines choses et je vais aller encore plus loin dans des choses qu'on n'a pas encore même vues. Il faut savoir aussi que un message comme ça le dimanche matin ne donne pas tout l'enseignement biblique sur le sujet. Donc il faut attendre quelques fois pour avoir l'autre partie d'une pensée ou carrément de poser des questions pour que vous ne soyez pas perdu. Du fait que je n'ai pas abordé un sujet en entier tel ou tel dimanche. Hein. J'ai pensé que ça serait bien quand même de reviser quelques pensées rapidement. Première chose, c'est que Dieu est le point de référence. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. C'est Dieu qui établit les règles. Donc, on dit les lois de la nature, mais qui est-ce qui a établi les lois de la nature? C'est Dieu. Dieu a établi les règles pour la nature, pour l'univers entier. Il a établi les règles pour la vie sociale. Comme je vous ai dit une autre fois, j'ai lu un livre laïque pour les écoliers. Et en fait, ça reprenait les 10 commandements. Mais il ne donnait pas une question côté moral. Il donnait simplement le côté social. Il disait, si vous volez de votre voisin, bien, ça fait difficile de vivre ensemble. Et c'est vrai. Mais c'est aussi une faute morale, vous voyez. Donc, ces lois étaient établies par Dieu et les lois que Dieu a établies dès l'origine, eh bien, c'est bon dans toutes les cultures. C'est une faute de voler dans toutes les cultures. Peut-être certaines choses changent par la définition de vol, de voler, mais quand même, on ne peut pas voler, on ne peut pas tuer, etc. Dans toutes les cultures, il y a des règles. Et donc, Dieu, troisième point, Dieu a créé le couple humain. Donc, tu as mentionné ça déjà ce matin. Il a créé l'homme et il a créé la femme. Il a créé le couple. Aussi, quatrième point, il y a toujours de l'ordre dans les choses que Dieu fait. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand Dieu a établi, donc quand il a créé le couple, il a créé le couple avec un ordre. Il y a de l'ordre, il y a l'autorité qui commence avec Dieu qui fixe les règles, par la suite l'homme, par la suite la femme, et par la suite il y a les enfants, et dans la famille orientale, donc on va dire biblique, eh bien, il y avait aussi les servants, les serviteurs, et tous les autres gens qui étaient vus comme partie de la famille. Donc il y a toujours cette question d'autorité ou ordre dans le couple, mais dans la famille. Donc, ça fait le quatrième et cinquième point. Le sixième point, c'est le fondement de nos problèmes, et d'ordre spirituel. Et donc, quand on définit ça, on parle du péché. D'accord? S'il y a des problèmes, c'est qu'il y a du péché, quelque part. C'est pas toujours notre faute, le péché. Ça peut être la faute de l'autre. On a parlé de l'infidélité. Donc, il peut y avoir une personne dans le couple qui est fidèle, l'autre qui n'est pas fidèle. Et donc, il y a un problème. Donc, quelque part, je ne dis pas c'est personnel, mais quelque part, s'il y a des problèmes, il y a le péché. Donc là, l'architecte a, le constructeur pour Air France, là, le grand terminal, je crois que c'était un, je ne sais plus, mais il avait triché sur les matériaux. Quand il fait la construction, et puis le toit est tombé et il y avait quelques personnes blessées, je crois qu'il y avait un ou deux morts ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une question de péché à fond. La personne qui était responsable a voulu gagner plus d'argent, donc l'avidité, c'est plus le mot hein, là, mais il a voulu faire plus d'argent, donc il a triché sur les matériaux qui n'ont pas résisté autant. Okay? Donc au fond, quelque part, il y a un problème de péché. Bon, on entre dans la question du mariage proprement dit. Le mariage est un engagement, comme on l'a vu ce matin, à vie. Okay? Regardez dans Genèse chapitre 1, On va lire 3-4 versets rapidement. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, il créa le couple. Il a créé le couple. C'est vrai, il a créé l'homme. Et par la suite, il a créé la femme. Mais il fallait les deux pour avoir la race. Il fallait avoir l'homme et la femme. Aussi dans Genèse chapitre 2 et le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on voit qu'il y a cette union, cette unité qui est établie. On voit que c'est l'homme qui quitte sa famille. Et on sait bien, c'est parce que souvent l'homme abuse de la femme et donc la femme a besoin de la protection. Donc la femme n'a pas besoin de s'éloigner dans le même sens de sa famille. Elle va certainement fonder le foyer, mais elle va rester plus près à sa famille que l'homme va rester à sa famille. Donc dans le monde, ça ne marche pas toujours comme ça. Hein. Dans le monde, souvent, on amène la femme chez l'homme qui reste chez ses parents. Et donc, la femme est abusée dans tous les sens. Et il n'y a personne pour la protéger. Donc, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, de toute façon, j'espère que vous n'abusez pas de vos femmes. Voilà. Ça ne devrait pas. Mais c'est comme ça dans la règle là. L'homme quitte sa famille, il prend sa femme et il quitte sa famille. Elle a le droit de la protection de sa famille. Ils deviendront une seule chair. Donc, en parlant de toute leur vie, mais aussi de la relation sexuelle. Et puis, regardez dans Marc chapitre 10. Sautez dans le Nouveau Testament. Il est intéressant que Jésus utilise ces deux textes comme la base de son argument. On a posé la question sur le divorce. Et on a dit, oui, mais Moïse a dit qu'on peut se divorcer. Et Jésus dit, oui, c'est parce que vous avez le cœur dur, endurci, c'est-à-dire les cœurs pleins de péchés. Et donc, vous voulez que la femme, quand elle brûle le toast, hein, le pain est grillé, trop grillé dans le chauffe-pain, eh bien, vous allez divorcer votre femme. Et ça, c'est arrivé à cette époque-là, à l'époque de Jésus. Les raisons, n'importe quelle raison, on se divorçait de sa femme et on prenait une autre. Et Jésus répond donc dans Marc, chapitre 10, versets 6 à 9. Il dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc Jésus dit, si vous voulez savoir comment Dieu voulait que les choses se passent, il faut retourner dans la Genèse. Il n'a pas utilisé tous ces mots-là. Il a dit simplement, regardez, au commencement, quand Dieu a fait les choses selon sa volonté, il a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé les hommes et les femmes, ni les hommes avec une femme, ni l'homme avec des femmes. Il a créé l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quitterait son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il a pris les deux versets que j'ai lus tout à l'heure, il les a mis ensemble. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc il y a l'alliage, deux personnes qui sont devenues un couple. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Jésus voit le mariage comme un engagement à vie. Et dans Romains chapitre 7, verset 2, nous n'allons pas regarder, mais il dit que la femme est liée à son mari jusqu'à la mort du mari. Donc si elle se marie et se divorce, elle se marie avec un autre, elle sera appelée adultère. Adultère veut dire qu'elle n'est pas fidèle à son premier mari. Ce n'est pas obligatoirement un mot de jugement moral, mais c'est un statut. La dame n'est plus fidèle à son mari principal, première. Maintenant, elle a deux mariés, c'est la même chose pour l'homme. Et c'est pourquoi Jésus dit, si vous divorcez votre femme, vous l'obligez à se remarier et donc à devenir adultère. Dans le statut. Hein? Statut d'adultère. Et j'ai pas interrompu ce matin, mais j'ai voulu dire, il est sous-entendu, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est sous-entendu si le couple se divise, c'est presque certain que tous les deux vont trouver notre copain, copine, se remarier, etc. Donc la vie va devenir encore plus compliquée. parce que l'homme et la femme ne vont jamais s'entendre parfaitement. Donc, il ne pouvait pas, en parlant d'un homme, ne pouvait pas s'entendre avec sa première femme. Maintenant, il ne va pas pouvoir s'entendre avec sa seconde femme. Et donc, je m'avance un petit peu, mais je regardais un reportage dans les informations, ça fait plusieurs années maintenant, mais il y avait cet homme, un Français, qui, à chaque anniversaire, il se réunissait avec sa femme, et avec sa femme, et avec sa femme, et avec sa femme. Il avait quatre femmes. Et tous les quatre anciennes femmes, parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus de femmes, mais il était marié quatre fois, et donc toutes ces femmes se réunissaient ensemble pour fêter le mariage de tous leurs maris. De leur mari à elles toutes. À elles toutes. Ça, c'est pas la monogamie. Un mariage, une femme. Ça, c'est la polygamie. Il avait quatre femmes. Bon, il jouait son jeu. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Depuis le commencement, Dieu a donné la règle, un homme, une femme. Okay? Alors, le mariage est une relation qui est très complexe. Jeune homme, comme dit Jean-Louis, il voit la jeune fille, oh là là! Et puis les choses commencent, et puis on ne pense qu'à lui et à elle. Et peut-être c'est un peu normal, mais le plus qu'on se renseigne, le plus qu'on voit que la suite de cette chose peut être très complexe. Et le plus que vous réfléchissez, que vous communiquez ensemble, le plus facile va être votre vie maritale. Par exemple, le premier des au moins six relations dans un mariage, c'est les deux personnes, hein? Lui et elle. Donc, c'est deux vies qui vont allier ensemble. Alors, en reprenant un exemple de Jean-Louis, si elle est déterminée d'aller en tant que missionnaire en, on va dire, tu es de quelle île? À Martinique. Et lui est déterminé d'aller au Brésil. Comment vont-ils se marier? Parce qu'ils ne peuvent pas, tous les deux, aller dans les deux sens. Vous voyez? Donc, il faut qu'ils soient ensemble. OK? Donc, il faut discuter ces choses-là, les deux individus. Mais, dans le mariage, il y a aussi la relation des deux familles. Parce qu'elle a tout un paquet derrière elle, et lui a tout un paquet derrière lui, et quand elle se marie avec lui, elle se marie avec eux. Et de l'autre côté aussi. Donc, si il n'aime pas sa famille, ça va être la cause de misère à travers leur vie. Hein? Parce qu'on ne peut pas aller assassiner la famille. Hein? On s'est marié avec leur fille, et bien on s'est marié avec leur famille, et peut-être même avec leur tradition, et tout un tas de choses. Ça va tout le monde? Il y a aussi, évidemment, la relation avec Dieu. Donc, on a parlé de ça ce matin. La personne qui n'est pas sauvée ne sera pas vraiment contente mariée à une personne sauvée. Et la personne sauvée est interdite de se marier avec la personne non sauvée. Pourquoi? Parce que c'est deux optiques de vie entièrement différentes. Les conseils que peut donner un docteur non chrétien peuvent être entièrement immoraux d'une optique chrétienne. Donc, il faut gérer cette question. Chaque personne devrait avoir leur relation personnelle avec Dieu. Mais, dans la quatrième relation, va au-delà de ça, dans la question de la communauté religieuse. Vous avez deux chrétiens, une méthodiste et un baptiste. Une méthodiste sauvée, un baptiste sauvé, avec les étoiles qui éblouissent, on voit plus clair. Mais quand il y aura les enfants, elle veut baptiser les enfants, et lui ne veut pas. Donc, une source de conflit qui est bâtie dans la question de la communauté religieuse. C'est mieux que la méthodiste se marie avec une méthodiste. Un méthodiste et le baptiste avec un baptiste, ou quelque chose de semblable. Hein? Suffisamment près pour ne pas avoir des conflits. On se marie aussi devant la communauté sociale. avant le mariage, elle est libre. Elle peut fréquenter tous les garçons. Il est libre, il peut fréquenter toutes les jeunes filles, causer comme il veut, parler, là là là. Mais une fois marié, couper toutes les relations, on s'est restreint à une personne. Hein? Donc c'est une relation sociale, on n'est plus libre. Et puis il y a aussi une relation avec la communauté légale, quand on parle de mariage. Donc c'est toute la question de l'héritage. Et quand on invoque héritage, on parle, oh, quand Sophie et moi, on était mariés peut-être 2 ans, et à l'église, on a encouragé tout le monde à s'occuper de leur testament. Donc ils ont fait venir un avocat à l'église qui a dirigé les testaments pour ceux qui voulaient participer. Et l'avocat a dit, c'est vrai qu'en ce moment, vous n'avez rien, parce qu'on n'avait absolument rien. On avait peut-être une voiture et quelques livres théologiques. Mais on n'avait absolument rien, on n'avait même pas d'enfant. Et l'avocat a dit, vous savez, aujourd'hui, vous n'avez rien, mais vous ne savez pas ce qui va arriver par la suite des choses. Il faut préparer d'avance. Alors aujourd'hui, on a une maison, donc de l'argent. Si on meurt, qu'est-ce qui va devenir de cette maison? Si on n'a pas le testament, l'oncle Jacques Chirac viendra dire, « Oh, tiens, il n'y a pas d'héritage !» Et donc, ça va être tout difficile pour nos enfants qui ont besoin de cet argent. Vous voyez? Donc, un homme à Argentan est mort, il n'avait pas fait de testament. Eh bien, si l'homme meurt, la femme n'est pas héritière, c'est les enfants. Elle est destituée en France. Donc il faut un testament qui veut que l'argent passe du mari défunt à sa femme. Ça c'est la loi en France. S'il n'y a pas de testament, il n'y a pas d'héritage pour la femme. Elle est destituée. C'est pas bien, mais c'est ça la loi, la façon de faire dans ce pays. Donc voilà, il y a la relation entre les deux individus, la relation entre les deux familles, la relation individuelle avec Dieu, et donc ensemble, donc ils vont prier ensemble, comme on a dit tout à l'heure, faire des cultes ensemble, la relation avec les communautés, la communauté religieuse, donc faut veiller sur cette question, dans quelle église vont-ils se marier? Hein? J'étais invité à faire un mariage à Argentan parce que elle était athée, et lui était anglicain, et elle a voulu se marier à l'église catholique, mais le prêtre ne pouvait pas, évidemment. Non, le prêtre a demandé, mais demandez à M. Allardis, peut-être il peut le faire, je vous prête l'église. Complexe, hein? Donc, c'était une bonne opportunité pour témoigner à ce couple, pour leur donner quelques conseils pour leur vie future, parce qu'ils allaient se marier, et ils avaient besoin de conseils. Donc, on a pris l'opportunité. Donc, la vie sociale et la vie légal. Et puis en plus tout ça, il y a les finances. On n'a pas invoqué ça ce matin, mais le mariage, la famille, est comme une entreprise. Ça fonctionne avec les finances. S'il n'y a pas les finances, on ne peut rien faire. Donc, il faut s'occuper de ces questions. Amour en premier, oui. Mais, prends soin pour voir pour les besoins de la famille. Donc, si l'homme peut le faire tout seul, tant mieux. S'il ne peut pas la faire, elle doit travailler, autrement, on va faire faillite. On sera sur la rue. On va attraper les maladies, etc. Donc il faut veiller à la question des finances. Il y aura les enfants. Il faut les éduquer. Là, on invoque les deux questions principales pour les causes de problèmes dans les familles. Les finances et les enfants. Hein? Éducation des enfants et distribution des finances. Ce sont les deux grandes causes des problèmes dans les familles. Donc, comme j'ai dit, Jésus a interdit le divorce. Il a dit, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, mais je n'ai pas lu tout le paragraphe, on a demandé, mais est-ce qu'on peut divorcer sa femme pour quelconque raison, comme c'était le coutume au premier siècle. Et Jésus a dit, regardez dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait le couple. Et il n'a pas donné le droit à se divorcer pour quelconque raison que vous faites. Ça, c'est vous dans la dureté de votre cœur qui veut divorcer vos femmes pour pouvoir avoir encore un autre. Et puis après un autre. Et encore après un autre. D'ailleurs, on peut regarder dans Malachie. c'est un texte intéressant, Malachie chapitre 2, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc c'est juste avant Matthieu, dans le Nouveau Testament Matthieu, et avant c'est l'Ancien Testament, donc Malachie, chapitre 2, versets 15 et 16. Donc, le verset dit, si je ne me trompe pas le verset, « Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis. Prenez garde donc en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, c'est-à-dire la divorce. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez garde donc en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Donc, Dieu, il dit qu'il a ça en horreur. Et quand on a posé à Jésus la question, est-ce qu'on peut s'y divorcer? Hein? En attendant la réponse, bien sûr, Moïse a dit que oui. Ben, Jésus avait ce sentiment d'avoir en horreur cette idée. Okay? Donc le divorce, c'est une chose qui est très offensive et en base, la base de question du divorce, enfin, c'est le péché. Le second point que je voudrais relever, c'est que le mariage est un engagement sexuel. On parle de la monogamie. Mono, qui veut dire un, et gamie, ça vient du mot femme. Une femme. D'accord? Et non pas polygamie, poly qui veut dire plusieurs, et gamay, c'est encore c'est femme, donc plusieurs femmes. Et on voit dans Genèse chapitre 4 et le verset 19, Genèse chapitre 4 et le verset 19, Lémec prit deux femmes, donc c'est la sixième génération après après Adam, excusez-moi, et donc c'est dans la descendance de Caïn. Et cet homme qui s'appelle le mec, et je trouve que c'est un peu rigolo en français, le mec. Il a pris deux femmes. L'un, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Tila. Okay? Donc il n'était pas satisfait avec une femme, c'est la première personne qui a pris deux femmes. Et à travers l'histoire par la suite, donc les hommes ont essayé d'avoir des relations polygames, c'est-à-dire plusieurs femmes. Le mormonisme est basé là-dessus, la polygamie. Et il y a, dans beaucoup de cultures, ça existe encore aujourd'hui. Mais dans le christianisme, nous sommes contre la polygamie et nous encourageons la monogamie. Alors, quand les chrétiens entrent dans une culture qui pratique la polygamie, ça fait un peu difficile dans les églises parce que pour établir les pasteurs, il faut que le pasteur soit le mari d'une seule femme. Alors, s'il est le mari de plusieurs femmes, même s'il est tout capable, etc., pour être pasteur, il n'est pas qualifié. Il ne peut pas être pasteur. Donc, il faut attendre la seconde génération des chrétiens pour que les chrétiens aient une relation monogame. Une seule femme. Ça fait partie des règles que Dieu a établies dès la création, mais qu'il veut réinstaurer à partir du christianisme. Donc, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2, 1 Corinthiens, 1er épître aux Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, pour éviter l'immoralité, l'immoralité donc étant le non-respect de cette relation homme-femme dans le couple marié, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc l'homme avec une femme, la femme avec un homme. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. On parle de la relation sexuelle ici. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Et donc, il dit, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis revenez ensemble de peur que Satan ne vous tente de raison de votre manque de maîtrise. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont les obligations mutuellement l'un envers l'autre. Et on n'a pas le droit à s'absenter de cette... s'abstenir, voilà, de cette obligation. Et il est intéressant que la loi en France oblige que l'homme et la femme dorment dans le même lit. La loi en France oblige que les couples promettent d'élever leurs enfants pour être des bons citoyens. C'est intéressant. Hein? Donc, c'est pas moi qui crée ces idées. C'est dans la Bible, mais c'est repris dans la loi française. Le mariage est un engagement sexuel. Je donne mon corps à cet homme. Je donne mon corps à cette femme. Ça fait partie de créer une relation, une seule chair. Il ne faut jamais utiliser vos relations sexuelles d'une manière disciplinaire. Je suis en colère avec toi, tu ne peux pas me toucher. Ça, c'est causer des problèmes. Ça, c'est dire à l'homme, bon, on va trouver une autre femme. Et ça arrive. Donc, quoi que soit vos problèmes dans vos couples, vos relations sexuelles sont obligatoires. Alors, restant toujours sur cette question de l'engagement sexuel, regardez donc dans Genèse chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, il n'y a pas encore de péché. Ils étaient là, Dieu les avait créés sans vêtements. Et puis, regardez dans chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 21. Verset 21, donc c'est après le péché, après toutes les malédictions, il dit, voilà, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. OK? Donc maintenant, Dieu a créé, Dieu a fabriqué pour eux des vêtements. Donc, on va parler rapidement du corps et des vêtements. Donc, il faut voir que le corps humain, que ça soit masculin ou féminin, le corps humain est magnifique. Et vous, et surtout vous les jeunes, vous devez accepter le corps que Dieu vous a donné. Il ne vous a pas donné un autre corps. Vous avez ce qu'il vous a donné. Donc, si votre nez est trop long, c'est comme ça que Dieu vous l'a donné. Ou si c'est trop court, c'est comme ça aussi. Il faut apprendre à vous accepter. Il ne faut pas envier le cœur des personnages publicitaires. Hein? Mais c'est la réalité. Hein? Il y a beaucoup de problèmes là-dessous. Et souvent, ce ne sont pas même des vraies personnes, parce que la vraie personne était maquillée pour qu'on ne voit pas leurs défauts. Parce qu'on a tous des défauts. Et pourtant, Dieu nous a fait chacun et chacune différemment et magnifique. Donc, acceptez qui vous êtes. Aussi, il faut prendre soin de ce corps que Dieu vous a donné. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux. Vous êtes vous et vous devriez à la fois accepter et prendre soin de ce que Dieu vous a donné. Alors, Adam et Ève avaient honte. Ils se sont fabriqués des feuilles, des vêtements de feuilles. Ils avaient honte comment? Enfin, ils avaient honte devant Dieu parce qu'ils avaient péché, ils avaient la conscience salie. Ils ont dit, oh, on est nous, et Dieu, il va arriver. Alors, ils se sont vêtus. Alors, quand Dieu est arrivé, donc, premièrement, il les a bien grondés, il les a maudits dans le sens qu'on trouve dans le chapitre. Et après, il a dit, ça ne suffit pas, ça ne va pas durer longtemps, ce truc de figue-là. Donc, il a fait des vêtements peau d'animal. Parce que qu'est-ce qui va venir par la suite? il y aura toute l'humanité par la suite. Dieu ne veut pas que les gens, le monde entier, soient nus. Parce que le cœur, c'est vrai, le cœur est beau, mais le corps est privé. Et donc Dieu, dans la parole, parle de la honte de, votre, de ta nudité. Hein? Cette expression biblique, que quand on est avec son conjoint, donc le corps est à l'autre, etc. Nudité n'est pas un problème. Pour Adam et Ève, ce n'était pas un problème. Pour Sophie et moi, ça ne devrait pas être un problème. Mais, devant le reste du monde, c'est un problème. Et d'ailleurs, si vous allez dans le parking lot sans vos vêtements, eh ben, les polices vont venir et vous emmener ailleurs. Hein? Donc, c'est un problème à ce moment-là, vous voyez? Donc, Dieu a vêtu, et j'aime bien le mot, il les a revêtis. Hein? C'est un revêtement de mur. Il y a des revêtements de sol. Il y a des revêtements corporels. Hein? Parce que Dieu veut que ça soit couvert. Alors attention. Premièrement, on ne veut pas, parce qu'on parle aux chrétiens là, les chrétiens ne veulent pas porter les vêtements qui attirent l'attention de tout le monde. Hein? Quand on était aux États-Unis, on était avec les neveux et la nièce, et puis elle voulait arranger ses vêtements afin que ses seins, c'est le mot, ses seins étaient bien en vision. Et donc c'était une photo familiale, on a dit, alors change-la, hein? Parce qu'elle voulait que les garçons regardent. Hein? Mais c'est pas normal. Si elle est mariée un jour, c'est bien. Mais si elle est jeune fille, faut pas attirer l'attention. Et d'ailleurs, au travail, elle a un problème avec un monsieur. Parce que justement, elle a attiré les regards. Donc, pour les jeunes filles, évidemment, faire attention parce que les hommes, ils regardent avec les yeux, n'est-ce pas? Je me suis perdu dans mes notes là, je vais me récupérer. Ah oui, donc aussi, je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses, excusez-moi, mais il y a question de nudité. Donc, les parents ne devraient pas s'exposer à leurs enfants. Hein? Les parents, ils doivent respecter, comme on a vu ça tout à l'heure, leurs enfants, leur nudité. Ça va peut-être pour la femme ou le mari, mais pour les enfants, ça ne les regarde pas. Donc, vous respectez les enfants et ne pas vous exposer à vos enfants. Je dis ça parce que j'ai appris que ça se pratique en France. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est du mal. Regardez dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Et verset. Bon, il y a tout un paragraphe, mais pour le respect du temps, je ne lis que le premier, on va dire deux versets. Et on reviendra une autre fois, certainement. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, il faut lire les deux versets ensemble parce que c'est une seule pensée. Il n'a pas dit que les dames sont interdites de porter de l'or, interdites de porter des perles, interdites de porter des habits somptueux. Il n'a pas dit que ce sont des interdictions. Il a dit ce qu'il veut, c'est que leur beauté ne soit pas ces choses-là, mais que leur beauté soit de l'ordre intérieur. Est-ce que vous me suivez? Parce que souvent, on coupe le verset à la fin du verset 9. Donc, je vous ai déjà dit une fois qu'une certaine missionnaire dans un pays de l'Est, elle offensait tous les autres dames parce qu'elle avait une bague de mariage. Parce que c'était de l'or avec un bijou. Et c'était interdit dans la Bible par ce verset. Ben non, c'est pas du tout l'enseignement de ce verset. Donc, il y a des moments que la femme va se vêtir très bien. Par exemple, à Noël, quand il y a un programme spécial et tout le monde va mettre leur meilleur habit. Hein, le meilleur robe et tout ça. Il y a des moments qu'on porte des bijoux, comme au mariage du roi, quand il porte son couronne et la demoiselle son diadème, etc. C'est pas interdit. Hein? Donc il faut garder tout en contexte. Mais en même temps, attention, il ne dit pas qu'on devrait être moche non plus. Et ça, c'est un mauvais témoignage. Si les chrétiens se disent, oh voilà, je suis pas de ce monde, je vais me faire moche. Ça, c'est aussi attirer l'attention. Et je raconte une petite histoire, mais on était à Argentan, et Sophie voyait une personne qui montait de la rue. C'était très loin de la personne. La personne était très loin. Et Sophie constatait que les couleurs n'allaient pas du tout ensemble, et que cette personne se présentait d'une manière très moche. Et puis, la plus près que la personne est venue, en fait, c'était notre amie. C'était une dame qui nous visitait, une américaine, une chrétienne, une missionnaire. Et elle n'avait aucun sens de l'arrangement. Plus tard, Dieu lui a donné une fille. Et la fille était très coquette et a appris à la mère de se faire, on va dire, belle. Hein? Mais à ce moment-là, Sophie était choquée par cette personne qui était trop loin de le reconnaître le visage, mais qui était d'une manière choquante, attirer l'attention par le mauvais vêtement. Est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir un juste milieu. Hein? Et surtout, donc, ne pas attirer les attentions par les vêtements sensuels, ne pas attirer les regards par les vêtements somptueux, ne pas attirer l'attention par les vêtements moches. Hein? Mauvais état. Hein? Si vous pouvez, hein, vous achetez des vêtements, achetez des vêtements. Oh, vous prenez quelque chose de la table à l'extérieur. Hein? Donc, le chrétien se vête. D'accord? Si on lisait plus loin dans 1 Timothée chapitre 2, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais vous allez apprendre qu'on doit, les jeunes filles, par exemple, Alexandre, hein? Les jeunes filles veulent attirer le conjoint, le garçon, non pas par ses vêtements, mais par son caractère, hein? Par ses manières, par ses attitudes, par sa piété, par ses paroles, la façon qu'on s'exprime. Hein? Et le reste viendra par la suite. Mais on voudrait travailler sur le caractère de la personne. C'est ça qui est important, c'est ça que dit le texte biblique. Et non pas l'extérieur qui peut se changer. Une dame, la même dame, qu'elle a un bon caractère ou un mauvais caractère, peut porter les vêtements somptueux ou les... how do you say rags?
Des haillons.
Des haillons. Hein? La même dame peut porter l'un ou l'autre. Ça se change. Hein? Mais c'est le caractère qui compte. OK, ça va? Hein? C'est la même chose pour les garçons. Hein? Il faut travailler votre caractère. Et le troisième point, rapidement, c'est que le mariage est un engagement à élever les enfants. C'est ça, j'ai mentionné tout à l'heure la loi en France. Donc Genèse chapitre 4 et verset 1 à 7, on a l'histoire d'Adam et Ève. Et Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel, elle enfanta encore son frère. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Alors nous avons déjà eu l'exemple que Dieu a fabriqué les vêtements à partir d'un peau d'animal. Il dit au bout de quelques temps, et on ne dit pas combien d'années, mais c'est sûr par le reste du récit que Caïn est un adulte, il est déjà marié. Okay? Donc ce n'est pas un garçon, ce sont deux hommes. Okay? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous voyez, dans, je vais montrer ça, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais dans l'ordre des choses, Dieu attend que les parents communiquent la vérité à leurs enfants. C'est une obligation. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire. Sauf s'il y a des baptistes qui viennent frapper à la porte. Voulez-vous envoyer vos enfants à l'église? On va les enseigner les histoires de la Bible. Hein? Bon, on peut récupérer quelques enfants comme ça. Mais normalement, les parents communiquent la vérité. Et donc, Dieu avait fabriqué les vêtements de peau d'animal, ce qui était le premier sacrifice. Dieu a tué un animal afin que Adam et Ève puissent être vêtus. Et par la suite, il y a, et c'est sous-entendu dans ce texte, quand on lit par la suite que Abel a fait une offrande animale, et ça a plu à Dieu, tandis que ici, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il ne voulait plus faire des sacrifices, il a décidé de changer la chose. Et donc, il dit Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, parce qu'il n'avait pas bien agi. Hein? Dieu dit à Caïn, si tu avais fait ce qu'il fallait faire, hein, il n'y aura pas un problème et tu n'as pas fait le bien. Tu as changé les choses, donc tu as agi mal. Hein? Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu commences à refaire ce qui est bien, tu seras content, tu trouveras le bonheur. Mais, il dit, et si tu agis mal, comme tu as fait, eh bien le péché se couche à la porte. Et c'est pour ça qu'il était déprimé, fâché, hein, parce qu'il avait fait un péché, il n'avait pas sacrifié comme il fallait. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui, sur le péché. Donc on a la première idée de sacrifice, et c'est une chose qui démarre ici dans l'Ancien Testament et qui est élaborée beaucoup à travers l'Ancien Testament, jusqu'à ce que, donc on voit dans l'image ici, la croix, n'est-ce pas? Parce que le sacrifice vraiment envisagé par tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas? Même quand Abraham a pris son fils Isaac et il allait le sacrifier, hein? C'était l'idée, Dieu voulait voir si Abraham avait confiance en lui, comme Dieu allait plus tard sacrifier son propre fils. Est-ce que Abraham allait jusqu'à ce point-là? Et oui, il allait le faire. Et Dieu a dit, non, attends, c'est bon, je vois. Maintenant, tu prends l'agneau, le bouc qui est là derrière toi et tu fais le sacrifice au lieu de tuer ton fils. Hein? Mais tout ça qui portait image depuis le Genèse, tout au début, quand on parle des sacrifices pour le péché, jusqu'à Jésus, qui était l'ultime de cette, qui est comble de cette idée de sacrifice. Il a sacrifié donc sa vie sur la croix pour nos péchés. Donc, il est vrai que dans cette question de sexualité, de mariage, de famille, ils peuvent avoir beaucoup de péchés. Ça accumule. Et de mauvaises attitudes, et de mauvaises relations, et le manque de respect envers les parents, et le manque de respect envers les enfants. Toutes les choses qui peuvent se passer. Mais Dieu peut enlever tout ça. Parce qu'il a envoyé son fils. Il faut reconnaître nos fautes. Il faut reconnaître nos péchés. Pour utiliser le mot biblique. Parce qu'on a offensé à Dieu. Et à nous, nos frères, nos sœurs, notre conjoint, etc. Et Dieu, il peut tout effacer. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il faut avouer nos péchés. Il faut se repentir, c'est-à-dire changer notre direction vis-à-vis de cette question et en demander pardon à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Donc, de cette manière-là, donc, on a confiance en Jésus-Christ qui enlève nos péchés et qui communique cette vie éternelle qui vient que de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse.